Donc je suis enseignant d'histoire-géographie dans une commune voisine, la commune de Stain, au collège Joliot-Curie. Et je suis aussi professeur relais, donc comme l'a dit M. Saez et Madame la directrice tout à l'heure. Très rapidement, un professeur relais, en fait, puisque c'est sans doute un petit peu confus ou opaque, c'est un professeur qui est dans un établissement qui n'a pas de décharge. Donc c'est un temps qui est au-delà, en plus de mon temps devant les classes, de temps de présence. Et en fait, donc, c'est un enseignant qui est rattaché à une structure culturelle, et son rôle, c'est à la fois de concevoir des projets pédagogiques, donc les ateliers qu'on peut présenter, qu'a présenté Madame la Directrice, aussi être dans la communication, de répondre aux attentes des enseignants, d'organiser ce qu'on appelle les plans académiques de formation, donc au niveau de l'Académie de Créteil, donc en ce qui me concerne. Donc voilà, on a une mission qui est assez vaste et peu de temps pour la réaliser, mais bon, voilà. On se débrouille. Alors, je vous parlais de mes élèves et je n'ai pas été très attentif aux consignes puisque moi j'avais prévu une intervention de 30 minutes. Mais être enseignant, c'est savoir s'adapter, donc pas de problème. Un premier temps un peu plus théorique puisque je suis plutôt géographe. Hein. Bon, même si je n'aime pas omettre mon côté historien aussi, mais voilà, on a la chance d'enseigner histoire-géographie, donc c'est bien. Et j'avais, quand j'ai vu l'intitulé au défi des inégalités territoriales, je me suis intéressé évidemment à la notion d'inégalité territoriale. Tout de suite, c'est ce qui m'a interpellé. Et donc j'avais prévu, en géographe, j'avais aussi localisé l'endroit où nous nous trouvons, donc vous voyez, au nord-est de l'agglomération parisienne, donc dans ces territoires de banlieue dont on entend souvent parler. Et justement, le projet que j'ai mené donc avec ma classe de 6e l'an passé, territoire métropolitain, abordait aussi la question de ces territoires qui sont surmédiatisés. Et donc je voudrais revenir un petit peu sur ce point. Voilà. Donc on se trouve juste ici, vous voyez la souris, non. Ah, elle s'en va, enfin, vous voyez l'université Paris 8, donc on est juste à côté, voilà. Hop. Donc la problématique que j'avais posée, c'est en quoi l'éducation artistique et culturelle pourrait-elle constituer un outil contre la fragmentation territoriale qui touche certaines banlieues, puisque c'est un espace qui m'intéresse particulièrement. Alors, voilà. Je suis amené à en parler non pas parce que j'y travaille, mais aussi parce que je m'intéresse à ces questions de territoire, d'un point de vue historique, enfin plutôt géohistorique et géopolitique, et notamment depuis l'implantation des archives nationales à Pierrefitte en 2013. Donc voilà, ça nous a amené à poser pas mal de questions. Alors, cette notion d'inégalité des territoires, finalement poser le thème au défi des inégalités territoriales, c'est faire le constat que ces inégalités existent. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser sur ce que signifie ce terme. Et voilà, je voulais simplement montrer, mais je vais le faire beaucoup plus rapidement, que la notion d'égalité, d'inégalité territoriale, c'est une évolution, c'est une notion qui a évolué d'un point de vue épistémologique. Elle n'a pas toujours eu le même sens, elle n'a pas toujours été pensée de la même manière. Et donc les réponses apportées à cette question des inégalités des territoires n'ont pas toujours été les mêmes. Il y a eu une appropriation politique de ces termes, évidemment, et notamment, j'essaierai d'en parler tout à l'heure, dans ces territoires de banlieue. Voilà. Donc, la première référence à la notion de justice spatiale, c'est Edward W. Soja, en 2010, dans son livre « Seeking Spatial Justice », qui va y faire référence, mais on a de très nombreux géographes et économistes qui ont travaillé sur les notions d'inégalité socio-spatiale. On va préférer plutôt le terme, plutôt que de parler d'inégalité des territoires ou inégalité territoriale. Je pense que pour éviter le déterminisme géographique, comme si finalement du lieu devait dépendre des inégalités, alors que finalement il faut se replacer, ce sont les inégalités qui sont dans ces lieux, les inégalités sociales à l'intérieur de ces territoires. Donc pour éviter finalement la notion de ce que Christophe Guilly appelle l'urbanisme criminogène, comme si l'urbanisme finalement en lui-même portait les germes de ces inégalités. Voilà. Donc j'arrive à la définition que j'aimerais retenir sur la notion de justice spatiale. C'est la dimension spatiale de la justice entre les hommes, donc plutôt parler d'inégalités socio-spatiales, et c'est donc l'étude spatiale des inégalités sociales. Voilà. Alors, juste un petit point, hop, je reviendrai dessus, historiquement sur l'égalité des territoires, et là je me suis référé aux travaux de Philippe Estève, et notamment à son livre « L'égalité des territoires, une passion française » de 2015, mais également aux actes du colloque que vous avez mené en 2009 et à la publication qui a eu lieu ensuite en 2012. Donc Philippe Estève, en fait, distingue trois évolutions dans ce qu'on appelle l'égalité des territoires. Il parle tout d'abord de l'égalité des territoires comme égalité des droits, c'est-à-dire la politique de redistribution et d'équipement. Voilà. avec l'idée que finalement chaque territoire doit disposer des mêmes services. Voilà. La deuxième définition qu'il va apporter ensuite, c'est l'égalité des territoires comme égalité des places. Et là, c'est une politique qu'on connaît bien, c'est la politique du zonage, les zones industrielles, les zones d'activité commerciale, par exemple. Et depuis les années 80, il montre ensuite que le sens de l'égalité des territoires a évolué, puisqu'on parle maintenant plutôt d'égalité des territoires comme égalité des chances, avec une mise en compétition de ces territoires depuis les lois de décentralisation du début des années 80. C'est ce qu'on appelle le polycentrisme maillé, finalement. Alors qu'avant, on avait ces métropoles d'équilibre où il devait y avoir ce rayonnement. Maintenant, on est dans l'idée d'une... quand vous regardez les cartes, notamment sur les différents sites, vous voyez des traits qui relient tous les différents points du territoire, comme si finalement, il y avait une égalité complète, une recherche d'égalité complète entre ces territoires. C'est l'affirmation d'un droit au développement généralisé pour tous les territoires, pardon, dès qu'ils portent ce qu'on appelle un projet de territoire et qu'ils signent un contrat avec l'État. L'égalité des chances est coopérative, car c'est un droit au développement qui est réputé non conflictuel. C'est donc la somme des projets de territoire qui fera le développement national, c'est ce que dit Philippe Estève, comme s'il y avait, c'est ce qu'il dit, une sorte de main invisible un peu keynésienne qui assure la régulation entre ces territoires. Cependant, rapidement, une concurrence horizontale s'installe entre ces territoires de même rang. Et voilà, en tant qu'enseignant, je me suis posé aussi la question, j'ai trouvé ça intéressant pour notre débat, puisqu'il y a aussi une mise en concurrence de nos structures culturelles et éducatives, et de toutes les offres. Je regardais juste avant ce débat aujourd'hui, toutes les offres qui étaient disponibles en salle des enseignants. Il y a une offre pléthorique, enfin en tout cas à Stein, voilà. On en reparlera justement sur cette inégalité des différents territoires, de manière un peu plus typologique. Mais donc il y a une offre qui est vraiment conséquente, et il serait aussi intéressant de s'intéresser sur la manière dont les enseignants sélectionnent leur offre culturelle et éducative. Quels sont les critères qui sont pris en compte par les enseignants? Bon, je ne l'ai pas fait, il faudrait que je fasse ce travail introspectif, mais quels sont les critères sélectionnés pour finalement choisir telle offre plutôt qu'une autre? La question de la proximité, le bouche à oreille aussi, entre collègues qui fonctionne beaucoup, la renommée de la structure sans doute aussi, voilà. Bien, j'avance un petit peu. Ce que je voudrais dire surtout sur cette question des inégalités des territoires, c'est aussi quelque chose qui n'était pas abordé, c'est l'inégalité en termes de représentation de ces territoires. C'est une notion qui est fondamentale, c'est l'image qui est associée à ces territoires, qui va aussi, qui a une influence qui est déterminante sur l'évolution de ces espaces. Voilà. Si on pense par exemple aux représentations associées aux territoires de banlieue, évidemment, des représentations qui sont plutôt négatives, du coup, ça va influencer aussi toutes les mobilités, la question du vivre ensemble, dont parlait tout à l'heure Madame la directrice. Voilà. Je vais avancer. Alors, un deuxième point maintenant sur le territoire qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, puisque depuis 2013, les archives nationales se sont implantées donc à Pierrefitte. Donc, une réflexion un peu plus typologique. On a vu ce qu'étaient les inégalités des territoires. Je veux réfléchir sur quels sont ces territoires marqués par les inégalités. On a parlé juste avant avec Madame Biro, notamment des zones rurales. Alors, c'est extrait du ministère du Logement et du Développement Durable. Donc, territoire, quelles inégalités? Il y a une sorte de typologie qui est proposée. Donc, les espaces ruraux, touchés par des pénuries de services, c'est ce qui est dit. On a les territoires désindustrialisés, pardon, minés par le chômage, les difficultés économiques et sociales et les dégradations environnementales. On parle également des territoires périurbains, ce sont les villes petites et moyennes. Finalement, ces différents espaces, c'est ce que, pour faire référence aussi au géographe Christophe Guilly, c'est ce qu'il appelle la France périphérique. 60% de la population française est pourtant une médiatisation qui est très faible, alors que si on fait référence au dernier espace qui est présenté comme un territoire marqué par les inégalités, les zones urbaines sensibles, où là, au contraire, il va y avoir une surmédiatisation justement de ces espaces. Je cite ce qui en est dit simplement, les zones urbaines sensibles dans lesquelles les populations cumulent les difficultés, taux de chômage élevé, niveau de formation faible, discrimination, insécurité, ce sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a l'impression dans la définition qui est donnée que ce sont des espaces qui sont figés, alors que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des espaces qui sont marqués par de très fortes mobilités. Voilà. Donc, voilà, je voulais simplement remettre un peu tout ça dans un contexte un peu plus... à différents niveaux. Les zones urbaines sensibles sont définies par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires de 1995. On parlait de l'urbanisme criminogène. Les zones urbaines sensibles sont associées aux grands ensembles, aux quartiers d'habitat dégradés. Et évidemment, quand on dit cela, on pense aux propos notamment de notre Premier ministre, qui parlait, par exemple, pour ces territoires, d'apartheid territorial, social, ethnique. C'est extrait notamment d'un article du Monde du 20 janvier 2015. Donc, voilà, ce que je voulais simplement montrer, c'est que le poids des représentations est aussi essentiel dans la considération de ces inégalités entre territoires. Voilà, c'est une notion qui est véritablement importante. Et percevoir ces quartiers de banlieue sous un œil un peu ethnique, cette ethnicisation territoriale, c'est associer un peu, c'est ce que dit Christophe Guillot, le ghetto contre la France blanche. C'est une lecture un peu anglo-saxonne américaine de ces territoires. Et ce qui est important, hein, je ne dis pas ça pour faire divaguer, c'est simplement que ça influence considérablement les politiques publiques ensuite qui sont menées sur ces territoires. Voilà. On va avoir une politique d'intervention de l'État dans ces territoires qui va être pour marquer les esprits aussi, donc d'où des grandes opérations de rénovation, de démolition, de reconstruction, ou des grandes opérations d'aménagement qui sont là aussi pour marquer l'empreinte de l'État dans ces territoires, et notamment par exemple les archives nationales depuis 2013, où il va y avoir l'association à l'arrivée de ces archives pour l'État d'un acte de citoyenneté, comme si à partir du bâtiment il devait y avoir un rayonnement citoyen autour de ces territoires. Voilà. On est aussi dans du marketing territorial. Ce sont des projets d'élus, voilà, qui sont menés aussi avec des archistars comme Massimiano Fuxas, par exemple, qui a construit le bâtiment de Pierrefitte, qui disait simplement que dans le projet de présentation du bâtiment, que c'était un bâtiment à partir duquel devait rayonner, je cite, une nouvelle géographie. Voyez. Donc on est bien aussi dans ces considérations qui sont importantes, puisqu'elles influencent évidemment la forme du bâtiment proposé et puis le regard qui est porté sur le territoire environnant. Voilà. Je passe, je vais avancer pour surtout qu'on puisse s'intéresser à l'éducation artistique et culturelle et à un exemple concret qui est donc le projet territoire métropolitain que j'ai mené l'an dernier. Oui, si juste un point quand même qui était intéressant, c'était, je posais la question simplement, est-ce que les archives nationales ont une vocation à lutter contre la fragmentation des territoires ? C'était une question qui me semblait intéressante à poser. Et finalement, quand on se réfère aussi du ministère du Logement et du Développement Durable, qui définit donc l'égalité et les inégalités entre les territoires, eh bien, oui, ça apparaît, puisqu'il est écrit qu'il doit y avoir un meilleur accès aux services. Donc on pense aux services publics de la culture, et notamment des archives. Les autres éléments apportés qui vont permettre de faire la transition, c'est le numérique. Donc cité comme étant une nouvelle chance pour les territoires, qui s'affranchit des contraintes géographiques. Donc ce qui est aussi intéressant, puisque en zone rurale, le numérique, la question de l'accessibilité est déterminante dans ce qui peut être dit. On a aussi la question de la nouvelle forme de solidarité financière, c'est ce qui est dit comme étant un élément qui doit permettre de lutter contre les inégalités. En arrivant au collège hier, j'ai vu une affiche de la mairie de Stein, où il était marqué, donc préparation du budget 2017, un budget de résistance. Voilà, vous êtes tous... vous connaissez tous les problèmes et les contraintes de politique d'austérité, dotation aussi de l'État vis-à-vis des communes. Donc, une nouvelle forme de solidarité financière, ça pose la question aussi du financement des projets en éducation artistique et culturelle. Ce sont des projets qui, généralement, quand il faut payer des heures avec des photographes ou des intervenants qui reviennent relativement cher. Donc, la question du budget et du financement de ces projets se pose, et elle est intéressante à étudier. Donc, meilleur accès aux services, le numérique... La solidarité financière, avec l'idée, c'est ce que j'ai pas cité John Rawls tout à l'heure pour sa théorie de la justice, c'est un économiste, la notion de justice spatiale vient d'ici, hein, mais c'est ce qu'il appelle le maximum, c'est-à-dire donner le maximum aux territoires qui ont le minimum, voilà, on est bien dans cette idée. Et enfin, le dernier élément qui est abordé pour réduire ces inégalités, c'est un meilleur accès aux droits élémentaires, l'éducation, le logement et la santé. Voilà. Donc dans l'éducation, on va évidemment s'intéresser à cette idée d'éducation artistique et culturelle. En quoi est-ce que l'éducation artistique et culturelle peut être un outil pour, est-ce qu'elle l'est d'ailleurs, pour résoudre, pour lutter contre les inégalités socio-spatiales. Voilà. Donc ça, c'était toute l'œuvre proposée, c'est un imprimé écran du site de la DAC de Créteil, sur toutes les politiques menées en éducation artistique et culturelle, puisque même si ça devient quelque chose de central dans la réforme du collège, il y avait déjà énormément d'actions entreprises. La politique d'éducation artistique et culturelle était déjà importante. Donc avant d'avoir un parcours d'éducation artistique et culturelle qui doit être maintenant proposé et suivi par chaque élève, vous en avez parlé hier de l'idée de l'appropriation par l'éducation nationale et de l'évolution, mais il y avait déjà énormément de choses qui étaient proposées. Voilà. Alors, le projet métropolitain. Fréquentation, pratique et appropriation. C'est bon ? Oui, bon. Alors, fréquentation, pratique, appropriation, on est bien dans. C'est vraiment ce qui a été mené dans ce projet, donc territoire métropolitain, réfléchir sur le local, mais également réfléchir à l'ouverture métropolitaine de la ville, d'où ce petit jeu de mots, peut-être un peu pompeux, mais métropolitain, voilà. Donc, un projet pédagogique de territoire. Alors, c'est un projet qui a été mené en partenariat, surtout avec les archives municipales de la ville. Puisque lors de mon arrivée à Stein, il y a 4 ans maintenant, j'ai assez rapidement rencontré Anne Thiebaud, qui s'occupe des archives municipales, et qui m'a montré ce qu'elle proposait pour les journées européennes du patrimoine. Donc c'était un petit feuillet de découverte de la ville. Et donc on a décidé de l'adapter, en fait, et d'en faire une véritable trace écrite pour la séquence, la première séquence du programme de géographie des classes de 6e, qui s'appelle « Mon espace proche ». Donc l'idée, c'était déconstruire les représentations qu'ont même les élèves sur leur territoire, et puis donc leur permettre de redécouvrir dans le temps aussi, en travaillant sur les documents d'archives, la commune, travailler sur l'urbanité, travailler sur la citadinité, comment on s'approprie cet espace urbain, comment on le fréquente, comment on s'y déplace, avec les notions de mobilité également. Donc partir des représentations des élèves, voilà, c'était le premier travail que j'ai demandé en classe à mes élèves, dessiner le quartier du collège. Alors un quartier identique pour tous les élèves, ce qui nous permettait ensuite, reprise en classe, de comparer les différents travaux qui avaient été faits pour essayer justement d'introduire des notions en sémiologie, légende, échelle, plan, carte, voilà, très simple. On l'a ici. Vous avez donc le livret ensuite qui a été conçu avec donc Anne Thiebaud et porté aussi bien sûr par les Archives nationales. On retrouve donc les différents logos aussi, des structures sur le feuillet. Chaque élève dispose d'un feuillet. Après cette première étape en classe, les élèves avaient un parcours urbain qui était mené autour de quelques lieux centraux de la ville, identifiés comme centraux, sorte de hotspot culturel et patrimoniaux un peu. Le château de la Motte, dont le portail est classé, l'ancien château de Stein, le monument aux morts, l'église, etc. Des lieux également sur lesquels on avait des documents d'archives pour qu'on puisse travailler ensuite dessus. Donc voilà quelques pages. L'activité qu'on a fait aux Archives nationales sur un plan donc, qui extrait des fonds N3 Seine, de l'ancien département de la Seine. Un travail numérique également. On parlait de l'approche numérique pour réduire les inégalités. Donc l'approche numérique me semble aussi essentielle dans ces travaux en éducation artistique et culturelle. Mise en comparaison ensuite avec donc, ce qu'a été la ville, ce qu'elle est aujourd'hui, enfin plutôt ce qu'a été la seigneurie, et ce qui est aujourd'hui donc, l'urbain, en tout cas l'urbanité, les petites questions à côté. Et la première étape ensuite que nous avons menée donc, avec Anna Rouquer, dont on parlait tout à l'heure, donc, qui est une photographe de Saint-Denis, ça a été un travail de photomontage. Donc, je vous parlais de l'évolution de la ville, approche géohistorique, travailler sur ce qu'était la ville et ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc, mise en comparaison de documents d'archives, chaque groupe a travaillé sur un lieu de la ville. Les élèves ont identifié quelques documents d'archives. Ensuite, ils sont allés prendre des photos de ces lieux, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, pour faire ce travail de photomontage. Donc, c'était la première étape que nous avons réalisée sur les différents lieux de la ville. Chaque groupe a travaillé sur le lieu qui lui était attribué. Voilà. Première restitution sur bâche qui a été proposée, on a associé les cartes, les plans, étudiés notamment aux Archives nationales que vous avez dans le fond, avec tous les photomontages des élèves qui sont ici représentés. Notamment le site des Tartres que vous avez ici, sur lequel s'est implanté les Archives nationales. Puisque ce qui est intéressant, c'est que ce sont des communes, donc Stein, Pierrefitte, limitrophes. Ce bâtiment des Archives nationales s'est aussi imposé dans leur paysage. Donc ce qui était intéressant, c'était aussi de les amener dans cette structure culturelle, bien sûr, mais aussi de leur expliquer comment, justement, ces opérations d'aménagement permettaient de travailler sur l'aménagement des territoires. Deuxième travail qui était intéressant, c'était de travailler, puisque la première approche était un petit peu statique, c'était de réfléchir sur ce qui fait territoire et la question des territorialités, c'est-à-dire l'appropriation et les mobilités. Alors, je vous parlais tout à l'heure des mobilités extrêmes dans ces territoires de banlieue. Les élèves, je suis étonné aussi, puisque je viens plutôt d'un espace rural où j'avais, soit mes parents qui m'amenaient, soit mon car scolaire qui venait me chercher quasiment au pied de chez moi. Je suis à chaque fois surpris de voir les élèves de 10-11 ans qui prennent les transports publics, qui se déplacent tout seuls, qui sont dans des mobilités quotidiennes et appropriées, quoi, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc, ce qui était important, c'était de travailler sur cette notion de mobilité, et on l'a fait par une autre démarche artistique, qui est le photogramme. Alors, on a superposé, en fait, différents documents imprimés sur transparent ou réalisés sur transparent. Le premier, c'était un plan de la ville de Stein, extrait des archives municipales. Ensuite, j'avais demandé en classe aux élèves de réaliser un plan mental de leur déplacement entre leur domicile et le collège. Et donc, on voyait se développer par ces traits. Alors, il n'y avait pas de consignes sémiologiques précisées et précises. L'idée, c'était vraiment de laisser les élèves laisser déambuler leur crayon, finalement, pour voir leur itinéraire et voir la manière dont ils représentaient ces déplacements et ces trajets, avec éventuellement construction de légendes, des sigles qui apparaissaient aussi, voilà ce qui était intéressant. Et enfin, dernière étape, lors de la sortie photographique, les élèves se sont pris en photo dans ces paysages et ils ont détouré en art plastique leur silhouette, ce qui donnait ça, au final, cette superposition d'images réalisées en laboratoire photographique à Paris, à la Maison du Geste et de l'Image, où les élèves ont travaillé donc en labo photo par tout petits groupes. Voilà, donc c'est aussi des conditions de travail qui sont beaucoup plus favorables et voilà, qui leur permettent de mieux s'approprier aussi la démarche de l'artiste et puis les pratiques. Donc un travail en négatif, en positif, de superposition. Donc voilà ce que ça pouvait donner. Je vous en ai mis quelques exemples. Et voilà, donc en positif cette fois. Et une deuxième restitution proposée sur Bâche cette fois, où tous les photogrammes ont été associés aux différents documents d'archives étudiés. Donc l'idée sur les deux restitutions, c'était de croiser la démarche dynamique et la démarche géohistorique, peut-être un peu plus figée. Voilà. Oui. Ok, parfait. Les restitutions au collège que nous avons proposées lors de la journée porte ouverte du collège, une restitution aux archives nationales. Les bâches sont présentées dans l'atrium au deuxième étage, enfin au premier. Enfin, oui, deuxième. Et d'autres projets, voilà, j'ai également proposé un poster au Festival international de géographie qui proposait une restitution de ce travail, donc qui permettait aussi de présenter ce qui était fait en classe, en éducation artistique et culturelle, en géographie, voilà, qui est souvent un peu le parent pauvre de l'histoire géo. C'est un projet qui a été poursuivi cette année, et on a travaillé sur d'autres formes de photogrammes avec un apport cette fois de végétation. Voilà. Alors, juste pour conclure, je vais le faire sur le bilan. Oui, je vais le faire sur le bilan, simplement. Alors, il y a évidemment des bilans, des aspects très positifs, hein, bien sûr, l'appropriation, meilleure connaissance du territoire, changer les représentations. Bon, il y a énormément d'aspects positifs, donc je pense que ce n'est pas à peine de les développer. Je voudrais simplement, ce qui était intéressant, peut-être, c'est développer davantage les limites aussi de ces projets en éducation artistique et culturelle. C'est un projet qui a concerné une classe, donc on pourrait peut-être penser aussi et parler d'une certaine ségrégation interne à l'établissement, finalement, et les inégalités à un niveau micro-local. Je crois que les inégalités des territoires doivent aussi s'entendre en termes multiscalaires. Il faut vraiment concevoir tous les différents niveaux d'analyse. Alors, si on pense, c'est un projet qui a permis aux élèves de s'approprier des démarches artistiques. Alors, si on compare peut-être avec une classe qui vient du Marais à Paris, oui, ça fonctionne. Après, si on regarde au niveau de la classe, certains élèves n'ont pas su réellement, on fait le constat avec la photographe, s'approprier ce projet. Ils sont restés finalement un peu à l'écart. On a toujours eu l'impression de les pousser à faire le travail, voilà, il y a un manque d'appropriation et difficulté pour eux à respecter les consignes, puisque quand on travaille aussi avec une photographe, il y a des consignes, ou même dans une démarche artistique, il y a des consignes de travail à respecter, et pour les élèves, c'était difficile de s'approprier ces éléments. Voilà, je terminerai ici.
Merci beaucoup.